Sophie Lévy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice du LAM, donc ce musée qui a été auparavant le musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq, et vous avez travaillé autour d'une exposition consacrée à Lanskoy. Vous n'avez pas été seule d'ailleurs pour la réaliser, peut-être aussi vous pouvez parler de votre coéquipière.
Oui, j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec Magali Le Mans, qui est docteur en histoire de l'art et qui nous a permis d'aller plus loin dans la recherche et l'identification d'œuvres méconnues de Lanskoy. Comme beaucoup d'artistes qui sont finalement assez peu représentés dans les musées, il faut creuser, il faut chercher, il faut interviewer les témoins de l'époque. Et Magali a pu faire ce travail finalement d'enquêtrice. Et puis ensuite, nous avons élaboré l'exposition véritablement en commun.
Donc Lanskoy a un prénom ?
Oui, absolument. Andrei ou André.
Voilà. Donc c'est un artiste qui est né en Russie au début du XXe siècle.
Oui, il est un tout jeune homme quand il arrive à Paris en 1921, fuyant évidemment la domination soviétique sur la Russie, comme beaucoup d'autres artistes et beaucoup d'autres simplement russes blancs. Il a d'ailleurs également intégré tout jeune l'armée blanche avant d'émigrer vers Paris.
Alors quand on voit ces premières toiles, celles qui figurent ici justement au LAM, on a l'impression de quelqu'un qui n'a pas encore de style. À la limite, on se demande s'il est réellement peintre, hein, ou du moins peintre professionnel.
Je crois que vous l'auriez beaucoup vexé si vous aviez dit ça, parce que sa fierté justement, c'est ce qu'il dit, et ça fait maintenant partie un peu de sa légende, c'est qu'il est arrivé à Paris, il voulait être peintre, il n'a eu aucune formation, mais à ce moment-là, une sorte de révélation et de début dans la peinture s'est fait immédiatement. Et ce que pensaient ses collectionneurs et ce que pensaient les gens qui l'ont défendu dans ces années-là, c'est que justement, le fait de ne pas avoir de formation, d'arriver pur, donne un style authentique. C'est l'expression de l'être sans les artifices de la connaissance.
Donc l'exposition est très intéressante parce qu'elle démontre toutes les étapes et notamment toutes les inspirations des différents courants artistiques qui étaient ceux de l'époque entre 1920, on va dire, et 50.
Oui, on voit que Lanskoy ne s'est pas enfermé dans une bulle de verre et qu'au contraire, il a constamment tenté d'apprendre et qu'il a appris essentiellement au contact des autres artistes, pour l'essentiel russes d'ailleurs. Au début, on voit qu'il regarde beaucoup du côté de la figuration, qu'il a regardé Soutine, qu'il a regardé Chagall, qu'il a regardé Goncharova, sa compatriote qui l'a beaucoup aidé à son arrivée à Paris. Mais il tente, dans ses débuts finalement, de retranscrire son univers intime. Il y a beaucoup de scènes, beaucoup de portraits d'amis ou de proches, et beaucoup de scènes intimes autour de tables, justement autour d'événements probablement lié à la culture russe émigrée à Paris.
Alors, parmi ses amis, certains sont célèbres et ont certainement contribué aussi à sa notoriété.
Oui, dans les années 40, il s'est rapproché beaucoup de Kandinsky, qui était déjà un peintre célèbre, même s'il n'était pas à l'époque aussi célèbre qu'il l'est aujourd'hui. Et Kandinsky a certainement joué un rôle clé dans son passage à l'abstraction. La légende veut, par exemple, qu'il faisait partie des gens qui ont porté le cercueil de Kandinsky à sa mort. Et puis, peu après, il rencontre Nicolas de Staël, qui, comme lui, était russe, comme lui, aristocrate, comme lui, émigré. Et ils ont, à ce moment-là, une vraie amitié autour de l'idée de la peinture abstraite et de la question de la couleur. Et, de manière aussi un petit peu parallèle, la question de la lumière dans la peinture, qui les intéressait tous les deux. Donc, évidemment, ce n'est pas du tout une vie solitaire, c'est une vie qui a été constamment enrichie par les dialogues et les échanges avec tous ces artistes, dont, comme vous dites, certains sont restés dans l'histoire de l'art.
Alors c'est vrai qu'avec d'autres artistes, certainement de cette époque-là, il y a des périodes parfois un peu plus difficiles et où ces artistes sont amenés à travailler dans les arts déco.
Oui, ce que l'on a découvert en préparant l'exposition, c'est que, bon, bien sûr, Lanskoï, ça c'était connu, dans les années 60, s'est mis à beaucoup produire des œuvres pour les arts décoratifs. Il a fait des livres illustrés, il a fait des mosaïques, il a fait des tapisseries, énormément de cartons de tapisseries, avec un lissier qui s'appelait Maurice Chassagne et qui a joué un rôle très important dans le renouveau de la tapisserie dans les années 60. Il a fait finalement presque toutes les techniques des arts décoratifs qui étaient celles les plus pratiquées par les artistes de sa génération. Mais ce qu'on a appris, c'est qu'il était sous contrat avec la galerie Louis Carré pour la peinture, mais que son contrat ne concernait que la peinture. Donc c'était également une manière finalement d'avoir des revenus complémentaires qui n'étaient pas contrôlés par son galeriste que de développer sa production en arts décoratifs.
Alors au passage, on découvrira dans ce musée une tapisserie assez extraordinaire car elle est très très précise dans la reproduction, on va dire, de ce qui pourrait être une œuvre peinte avec tous les détails, des traits, des brosses, etc. C'est vraiment un exploit de tapissier.
Oui, alors c'est là qu'on voit justement que ce qui est passionnant dans le travail justement sur les arts décoratifs, c'est le lien avec un technicien de la technique. On n'est jamais seul. Et là, en effet, c'est le dialogue et la proximité et la sensibilité, on pourrait presque dire le génie de Maurice Chassagne, qui travaillait dans les ateliers d'Aubusson, qui a permis la réalisation d'un certain nombre de tapisseries avec toute cette finesse de coloris, comme vous le constatiez. Il y a des dégradés de rouge qui sont par ailleurs d'une grande fraîcheur parce que la tapisserie n'a pas été trop exposée à la lumière. Et donc, il y a une finesse dans la maîtrise des dégradés de rouge qui évoque en effet la peinture de manière saisissante. Mais c'est vraiment une sorte d'œuvre commune. Sans Chassagne, Lanskoï n'aurait pas pu produire ses œuvres.
Alors, Lanskoï est très connu, on va dire, aussi pour son univers de couleurs. Pas seulement, c'est ce que vous voulez démontrer.
Oui, parce que c'est presque un des poncifs, Lanskoï, le coloriste, il a trimballé toute sa carrière depuis les années 20. Et on s'est rendu compte que dès la fin des années 40, il a fait une série d'œuvres qui sont presque exclusivement noires et blanches, que ce soit des fusains, très grands, très, très monumentaux, dont l'un a été acheté par l'État de son vivant, ou que ce soit des peintures. Et par conséquent, celui qu'on nomme le grand coloriste structurait considérablement ses toiles abstraites par le jeu rythmique du noir et du blanc, qui donne finalement une sorte de succession de lignes, souvent verticales ou diagonales, qui permettent d'organiser le tableau. Et la couleur ne vient qu'ensuite. C'est ce que nous illustrons par cette suite. Et puis on voit que ces œuvres sont largement aussi puissantes que les œuvres colorées.
Donc cette exposition qui s'intitule « Lanskoï, un peintre russe à Paris », elle est à Villeneuve-d'Ascq. Pourquoi ?
Ah ben tout simplement par l'histoire de Villeneuve-d'Ascq. Le musée a été créé à partir de cette splendide collection qui est la collection Roger du Tilleul, reprise et complétée, enrichie par son neveu Jean Mazurel. Et c'est évidemment Jean Mazurel qui, dans un dialogue avec la communauté urbaine de Lille, a choisi le site de Villeneuve-d'Ascq pour construire son musée. Et Lanskoï, de ce fait, a été associé très étroitement avec l'histoire de Villeneuve-d'Ascq et puis plus généralement du Nord, puisqu'on se rend compte, quand on regarde l'histoire, que par Jean Mazurel, il était exposé et très, très, très collectionné par les collectionneurs du Nord dès les années 50.
Donc le musée possède déjà des œuvres de Lanskoï. Là, c'est une occasion d'enrichir, de compléter, de mettre en perspective ses œuvres avec d'autres.
Oui, c'est exactement ça. Notre collection est essentiellement figurative du fait que Roger du Tilleul avait une sorte de contrat de mécénat avec Lanskoï dans les années 20 et 30, qui s'est interrompu en 44 quand Lanskoï a été repris par la galerie Louis Carré. Donc par conséquent, nous avons une soixantaine d'œuvres de Lanskoï, ce qui est énorme, essentiellement figurative. Nous avons voulu, nous, mettre en avant plus fortement les œuvres abstraites de Lanskoï, qui sont les plus célèbres, les plus maîtrisées, les plus réussies. Par conséquent, nous avons emprunté dans toutes sortes de collections particulières en France et à l'étranger, mais également dans des musées, pour tenter de donner un aperçu le meilleur possible, mais le plus varié également, mais aussi le plus juste historiquement du parcours de Lanskoy.
Donc les œuvres qui sont ici, on a un peu expliqué comment elles ont été choisies. Elles sont aussi mises en perspective avec d'autres, Chagall, Soutine et bien d'autres. Donc qu'est-ce que vous voulez démontrer? Quelle est votre touche personnelle et celle de votre collègue aussi dans cette présentation au grand public?
Il y a eu beaucoup de parti pris, dans cette exposition, qui la rendent évidemment singulière et qui ne serait pas celle qu'un autre musée aurait faite. D'abord, nous avons eu accès à ces gouaches du passage vers l'abstraction, qui sont des gouaches qui sont pour la plupart inédites. Et par conséquent, on a vraiment créé un temps fort autour de ces gouaches qui sont passionnantes et très belles. Ça, c'est un premier aspect. Ensuite, on a en effet voulu l'entourer par un certain nombre d'artistes qui l'ont entouré dans sa vie et qui ont exposé avec lui, parce qu'il nous semblait plus juste de montrer comment une œuvre se développe au cœur d'un contexte artistique très nourri, qui est celui de l'École de Paris, où les artistes avaient les possibilités d'échanger, d'exposer ensemble et de dialoguer dans l'atelier, dans les galeries, partout dans Paris. Et on a voulu finalement rendre un peu de ce foisonnement, de cette solidarité, de ces échanges qui caractérisent pleinement ce moment auquel Lanskoy a participé.
Sophie Lévy, je vous remercie. Donc, cette exposition est à voir au LAM jusque...
au 15 janvier 2012.
Ce sujet a été réalisé par René Lavergne de Radio Campus.
Возьму я ружу кветку, ды пушу на воду. Плыви, плыви, ружа кветка, до самого броду. Плыви, плыви, ружа кветка, до самого броду. Плыла, плыла, ружа кветка, ты стала крутиться, вышла мать и воду брать, пошла девица. Вышла мать и воду брать, пошла девица. Ой, ты моя ружа кветка, чаму ж ты завяла? Пэўна доўга ты, дзіцятка, на вадзе ляжала. Пэўна доўга ты, дзіцятка, на вадзе ляжала. Узяла маці ружу кветку, палажыла ў хаце, ды як гляне, успамінае аб сваім дзіцяці. Ды як гляне, успамінае аб сваім дзіцяці. Ты пушу на воду, плыви, плыви, ружа кветка, до самого броду. Плыви, плыви, ружа кветка, до самого броду.